Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h18 au terme d'une semaine qui a vu un scandale familial livré au public. Révélation dans le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, de l'inceste dont son frère a été victime de la part de son beau-père, Olivier Duhamel, que vous entendiez régulièrement sur Europe 1. Bonsoir Sandrine Rousseau.
Bonsoir.
Vous avez créé il y a 3 ans une association, l'association Parler, pour accompagner les victimes de violences sexuelles. Est-ce que cela aide les victimes que ces affaires sortent de cette manière en public ? Dans un livre, par exemple, est-ce que ça les aide ?
Alors, je pense que à chaque fois qu'une affaire est médiatisée, ça aide des victimes à parler. Ceci dit, la grande absence de toute cette histoire, comme d'énormément d'histoires de violences sexuelles, c'est l'absence de la justice. C'est-à-dire que la justice n'est pas présente dans aucune des étapes de cette affaire, comme de la plupart des affaires en France aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas eu de condamnation de personnes un peu célèbres, par exemple, pour violences sexuelles. Et donc là, ce qui est dit, c'est toute l'omerta, tout le silence qui est organisé autour de l'agresseur pour que ceux qui savent, et ceux qui subissent surtout, ne puissent pas parler. Et donc, la justice doit s'adapter à ce contexte. Et une des manières de s'adapter à ce contexte, c'est d'inscrire dans la loi l'imprescriptibilité des crimes, notamment sur mineurs, parce qu'il y a tout un processus pour s'émanciper des familles qui sont maltraitantes. Et ça, on ne peut pas exiger des victimes qu'elles le fassent dans des temps qui sont des temps de justice. Mmh. C'est leur temps à elles de victimes et il faut respecter ce chemin-là.
La loi a évolué hein, beaucoup sur le sujet. Aujourd'hui, pour des crimes de cet acabit sur des mineurs, le délai de prescription est de 30 ans. Pourquoi il n'y a pas d'imprescriptibilité alors que beaucoup de politiques s'y engagent, que des gardes des Sceaux ont même pris la parole à un moment donné puis ne sont pas allés plus loin dans la réforme de la loi, la dernière en date 2018 ?
Ça, il faudrait demander aux différents gardes des Sceaux. Il y a un sujet autour de l'imprescriptibilité qui est réservé aux crimes contre l'humanité.
Oui.
Mais ceci étant, l'ampleur de ces crimes, les conséquences que ça a sur la vie des personnes qui en sont victimes, nécessitent quand même que l'on revoie ce délai de prescription et qu'on l'allonge le plus possible. Parce que l'argument des juristes est de dire qu'il n'y a pas assez de preuves si le délai de prescription est trop long. Mais on voit qu'en fait, les preuves, on en a des témoignages, on en a des personnes qui pourraient attester des faits sont encore présentes et on pourrait très bien juger une affaire comme celle-ci. Mmh. Et pour autant, là, la justice va sans doute classer sans suite pour prescription.
Il fallait dire les choses, dire en protégeant la victime. Je note que cette victime, en l'espèce, son prénom a été modifié, qu'elle ne souhaite pas parler, qu'elle n'a pas souhaité porter plainte. Il s'agit d'un homme aujourd'hui qui a 45 ans. Vous pensez évidemment à cet homme aujourd'hui dont on parle beaucoup, mais qui lui ne veut pas parler et ne peut pas parler.
Mais sa situation à lui est évidemment très douloureuse parce que moi, ce que je retiens du livre que j'ai lu hier, c'est qu'il n'a jamais trouvé dans les adultes une seule personne de confiance ou suffisamment de confiance pour pouvoir parler de ce qu'il subissait. Et ça dit quand même toute la défaillance de notre système d'éducation, par exemple, mmh. Ou à l'école, au collège, au lycée, il n'y a pas une seule personne qui puisse recevoir cette parole. Les enfants ne sont pas incités à dire quand ils subissent des choses. Il a sans doute eu des activités associatives, sportives, culturelles. Il n'a pas dû trouver dans aucun des adultes qui l'encadraient la capacité et la confiance suffisante pour pouvoir parler. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que c'est une défaillance collective. C'est-à-dire qu'on arrive là à pointer du doigt tout ce qui dysfonctionne dans la lutte contre les violences sur les enfants,
y compris
et dans la protection de l'enfance.
Oui, y compris quand cette rumeur va plus loin, jusqu'à Aurélie Filippetti, ancienne ministre, qui dénonce ses actes. Elle arrive comme professeure à Sciences Po, elle dénonce ses actes auprès du patron de Sciences Po, qui embauche à l'époque Olivier Duhamel. Lui se dit choqué, effondré, mais rien ne se produit. Il n'est pas tombé manifestement sur les bonnes personnes pour aller plus loin. Cette omerta, cette chape de plomb totale, cette erreur collective, elle tient dans ces détails-là aussi d'importance ?
Oui, c'est-à-dire qu'aucun adulte ne s'est senti responsable de ce qui se passait. Mmh. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est vraiment... Moi, à l'issue du premier confinement, on avait eu une commission avec Marlène Schiappa pour essayer de voir les mesures qu'il fallait prendre pour lutter contre les violences qui ont eu lieu durant le confinement. Et moi, j'avais proposé qu'il y ait une commission dans chaque... ou un groupe de parole dans chaque lycée, chaque collège et chaque école pour essayer de recueillir la parole des enfants qui ont été enfermés avec ceux, avec les auteurs de ces violences.
Oui.
Eh bien, ces commissions n'ont toujours pas eu lieu. Or, si... À un moment donné, la société n'envoie pas un message à ses enfants, ils sont seuls face à leur famille. Et on ne peut pas leur demander de parler seuls dans une famille qui dysfonctionne. Ça n'est pas possible. On voit d'ailleurs dans le livre tout le prix qu'il y a à payer de parler.
Bien sûr. Sandrine Rousseau, vous êtes économiste, vous êtes femme politique et vous êtes candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts pour la présidence en 2022 avec le slogan de votre campagne « Il est temps de redonner à notre République un visage humain ». Les femmes peuvent-elles davantage faire avancer ces sujets de société, celui dont nous parlons, d'autres encore sur la vertu écologique, sur ce nouveau modèle? Est-ce que vous croyez en ce pouvoir féminin différent d'un pouvoir masculin, pour reprendre une distinction genrée qui ne vous plaît peut-être pas?
Je ne sais pas si les femmes ont des qualités très différentes des hommes, mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que là, la présidence que l'on vient de subir est une présidence qui a quand même été extrêmement arrogante, extrêmement personnelle, extrêmement autoritaire, et donc extrêmement méprisante. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de quelque chose qui fait du bien, c'est-à-dire d'une forme de gouvernance qui prend soin, qui fait du bien, et qui a une forme d'empathie vis-à-vis des Français et des Françaises, et qui est issue de ces Français et ces Françaises. C'est-à-dire pas quelqu'un qui surplombe, mais une personne qui a, par ses combats, par sa trajectoire, par son travail aussi, évidemment, incarné quelque chose. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que je suis économiste, je suis chercheuse en économie depuis 20 ans, mes domaines de recherche, c'est l'environnement et la précarité. Mmh. Je suis vice-présidente d'une des plus grandes universités de France, et donc... je crois être au plus près des problématiques qui se posent aujourd'hui chez les Français et les Françaises, la souffrance psychologique, la difficulté à gérer la question environnementale, et je crois qu'on a vraiment besoin de changement. Oui, les temps doivent changer, oui, une femme doit être présidente de la République, ça n'est pas normal qu'en France il n'y ait jamais eu de femme présidente de la République, et qu'on en ait eu une seule première ministre, ça n'est pas possible. Les temps changent.
Vous avez eu des contacts justement avec des femmes qui seraient intéressées par ce poste, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, notamment. Vous échangez sur ces sujets avec ces femmes-là?
Je suis en contact avec des femmes, en effet, qui pourraient elles aussi être présidentielles, et je serais évidemment très heureuse de pouvoir aussi amener dans cette dynamique d'autres femmes, mais pas que des femmes, toutes les personnes qui se sont senties humiliée, brisée, cassée par cette mandature qui vraiment, à mon sens, arrive à la fin d'un système politique qui...
Même si on nous avait promis une nouvelle manière de faire de la politique, c'est ça, il va falloir redonner la confiance aussi aux électeurs qui ne voteraient pas pour Emmanuel Macron ou pour d'autres candidats patentés.
Mais je crois que ces électeurs et électrices ont besoin de se reconnaître dans les parcours et voilà, on a chacun évidemment chacune nos parcours, mais le mien a été ponctué aussi de tant de souffrances, de tant de difficultés et c'est parce qu'aujourd'hui je retrouve la force et que je retrouve surtout une énorme envie de permettre de changer de trajectoire,
d'être
une espèce de rupture, une rupture avec le système tel qu'on l'a actuellement. Enfin, le Covid nous a permis quand même de voir ce qui était essentiel et ce qui était accessoire, de ce qui comptait et de ce qui ne comptait pas. Et je crois qu'on s'est beaucoup trompé dans les temps qui ont précédé.
Certainement, même si vous devez repartir dans un parcours que vous connaissiez en tant qu'ancien membre d'Europe Écologie Les Verts, il vous faudra repasser par cette primaire Europe Écologie Les Verts.
Tout
mais cette logique vous sied, Sandrine Rousseau?
Mais la primaire, c'est un temps démocratique, c'est un temps qui permet aussi de définir une ligne politique. Et moi, la ligne que j'incarne, c'est de dire qu'on ne peut plus continuer comme ça, qu'il nous faut assumer une radicalité environnementale, qu'il nous faut assumer des mesures environnementales importantes, qu'il nous faut revoir notre contrat social, qu'il nous faut protéger les enfants, protéger les personnes les plus fragiles, et qu'on ne peut pas continuer comme ça, avec cette arrogance. Il nous faut nous-mêmes présider notre destinée ensemble.
Il est temps de pouvoir choisir sa fin de vie, voilà un des sujets de société que vous évoquez. Il est temps de donner plus de droits aux enfants, en effet, d'écrire un nouveau contrat social ou de respecter la volonté des citoyens. Ça veut dire quoi, Sandrine Rousseau ?
Ben là, on voit bien qu'on attend avec une certaine impatience à chaque 20 heures toutes les mesures qui vont nous être imposées. Les territoires, le local n'est pas du tout associé aux décisions qui sont prises dans la crise du Covid.
Mais regardez, on crée des collectifs citoyens, de 35 citoyens pour suivre la vaccination et tout le monde s'emporte en disant que c'est un gadget. On a beaucoup de
démocratie
participative. Mais c'est
35 citoyens sur toute la France, ouais. Les territoires, dans tous les territoires, dans tous les espaces locaux, il y a de quoi travailler sur le bien commun. Et surtout, par exemple, une stratégie de vaccination, elle se fait avec les territoires, avec les villes, avec les écoles. Et là, on ne peut pas juste être suspendu à une espèce de parole présidentielle, providentielle presque, comme si notre avenir en dépendait. Notre avenir dépend avant tout de notre propre co-organisation.
Et vous voulez redonner à votre République, à notre République, un visage humain. Sandrine Rousseau, en conférence de presse le 21 janvier, vous qui êtes économiste, vice-présidente de l'Université de Lille, fondatrice de cette association Parler, que nous évoquions en début d'échange, et candidate à la primaire Europe Écologie Les Verts pour la présidence de la République en 2022. Merci Sandrine Rousseau d'être venue sur Europe 1.